Radio Grand Ciel présente D'art et d'histoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Nous continuerons notre visite des églises du Perche, du Loir-et-Cher et de la Sarthe avec Bernard Malcor, président d'honneur des Amis du Perche. Nous avions évoqué l'église Saint-Jean-Baptiste du Plessis-Dorin, l'église Saint-Denis de Mondoubleau et aujourd'hui, nous visiterons l'église de Saint-Cyr de Sargé-sur-Braye. Bernard Malcor, bonjour.
Bonjour, Christiane Blain.
Alors justement, cette église Saint-Cyr de Sargé-sur-Braye est assez étonnante. D'abord, pourriez-vous situer ce petit village qui est un village du département du Loir-et-Cher, dans la région Centre-Val-de-Loire, et c'est une commune qui est traversée par deux cours d'eau, la Braye et la Graine. Alors, ces deux rivières confluent avant de poursuivre, disons, vers le Loir. Alors, dans ce village, j'ai vu qu'il y avait deux églises. Alors, comment a été fait votre choix?
Il y en avait même trois.
Ah! Mais, choix encore plus difficile.
Mais pas tant que ça, puisque la troisième a disparu et a trouvé son témoignage de mémoire dans celle dont on va parler aujourd'hui. Donc il y avait deux églises, parce qu'il y avait deux paroisses. C'est une commune qui avait trois châteaux. Et le château de Montmarin, qui était de l'autre côté de la Braye, par rapport à l'église de Saint-Cyr, et l'église de Saint-Martin. Mais le château de Montmarin avait comme paroisse Saint-Martin. C'est une petite église romane qui est quasiment désaffectée aujourd'hui, qui sert de musée pour la pierre de Roussard, qui est une pierre de la région.
Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait des fresques
alors,
assez
il
importantes.
Alors, elle a ces restes qui sont réputés, mais très abîmés en même temps. Il y a les signes du zodiaque qui sont peint sur l'extrado de l'arc qui mène de la mini-nef au mini-cœur. Et ces peintures murales sont en voie de dégradation très avancée.
Mais vous faites parce quelque chose ?
Eh bien, personne ne fait rien.
Mais alors, il faut demander, il faut...
Grâce à cette émission, on va sûrement recueillir, du moins la commune de Sargé va se lancer dans le projet, sûrement.
Oui, vous avez pas
eu... Personne ne s'en occupe pour l'instant.
Ah oui, il faudrait une association. Pourquoi vous avez choisi d'évoquer l'église Saint-Cyr ?
Parce que l'église Saint-Cyr est l'église qui est aujourd'hui celle de la paroisse. Les gens de Sargé viennent à la messe à Saint-Cyr.
Et vous-même, c'est votre paroisse
C'est une des églises du secteur paroissial dans laquelle, à laquelle moi j'appartiens. C'est le secteur paroissial de Mondoubleau, qui comprend 25 paroisses, avec Drouet, dont on parlera une autre fois. Mais Sargé est une des églises du secteur paroissial. Elle a quasiment plus de messes.
Ah bon ?
Et non, puisqu'on n'a qu'un curé pour 25 paroisses, et toutes les messes sont célébrées au centre de la paroisse qui est Mondoubleau.
Ah oui. En fait, il y a une seule messe le dimanche à Mondoubleau.
Sauf à certaines fêtes propres à chacune de ces paroisses, et toutes n'en ont pas, mais Saint-Cyr en a une,
avec
qui est la
pèlerinages.
Fête de Saint-Sébastien.
Oui, avec des pèlerinages.
Non, ce n'est pas un pèlerinage, mais c'est une fête où ils honorent Saint-Sébastien depuis tout temps. Et quand on leur demande, mais pourquoi Saint-Sébastien? Qu'est-ce qui a un rapport avec vous? Ils ne savent pas toujours trouver la relation. Oui. Et à force de rechercher, on s'est rendu compte que Saint-Sébastien, qui était prié pour se protéger du choléra, jusqu'en 1858, il faut savoir que le choléra a même été jusqu'en 1878, il y a encore eu des épidémies de choléra.
Ah oui.
Mais la plus grande, ça a été 1832, où il y a eu 96 000 morts en France, c'était l'horreur. Et bon, tout le 19e siècle a été très impressionné par les épidémies de choléra, et on priait Saint-Sébastien pour se protéger du choléra.
Et
alors, comme il n'y a plus de choléra, plus d'épidémie, il y a quand même la fièvre afteuse.
Ah.
Et donc, les agriculteurs viennent prier, sans le savoir, sans plus le savoir, Saint-Sébastien, pour les protéger, leurs vaches, de la fièvre afteuse. Donc, c'est la fête des laboureurs, maintenant. En fait, maintenant, on dit
c'est
la
mieux,
fête des laboureurs.
Les laboureurs. Voilà. Alors, pourquoi vous avez choisi d'évoquer cette église Saint-Cyr de Sargeix ?
Parce qu'elle fait partie des 10 églises que je fais visiter. Et celle-là a beaucoup de choses qui m'ont interpellé et pour lesquelles j'ai eu une certaine affection. Exemple, un vitrail dans la nef que je trouve tout à fait intéressant. Ce vitrail est du 19e, parce que vous savez, toutes ces églises étaient très remaniées, restaurées, enrichies au 19e. Mmh. Ce vitrail du 19e représente le purgatoire. On y voit 3 marches d'escalier, au bout duquel il y a des flammes et des personnes qui semblent prier. Donc c'est pas l'enfer.
Non, mais c'est le purgatoire, c'est justement purgatoire. Pour ne pas y aller.
Voilà. Et ces personnes semblent tourner vers une représentation de la Vierge qui est dans le ciel, parce qu'elle est entourée par des anges, et elle est sur un nuage, comme s'ils suppliaient cette Vierge d'intercéder pour eux auprès d'un Christ que l'on voit dans une mandorle qui présente ses 5 blessures, vous savez, il a les blessures de la croix, les 2 mains, les 2 pieds, et il a sa main sur le côté droit où il a été percé d'une lance d'où a jailli le sang et l'eau salvatrice. L'eau salvatrice, le sang salvateur, l'eau salvatrice. Et de cet sang et de cette eau, on peut penser, et ils le pensent, mes gens qui sont dans le purgatoire, qu'ils vont être sauvés. Et la meilleure preuve, c'est qu'il y a, sous cette représentation du Christ, un ange qui tient un calice qui rappelle que par le sacrifice eucharistique, on peut intercéder pour le salut des âmes du purgatoire. Par la participation à l'Eucharistie, les fidèles d'aujourd'hui intercèdent pour que le temps du purgatoire soit le plus court possible.
Très bien.
Et en 19e siècle, à Chapelle-Montligeon, qui n'est pas très loin...
Oui, c'est la même
chose. Il y a eu l'œuvre expiatoire, expiatoire, où justement... prête à lancer alors là un grand pèlerinage pour que et qui est toujours très fréquenté.
Beaucoup de monde vraiment à la chapelle.
Donc, et ce vitrail rappelle cette œuvre. En fait, c'est la même époque.
Oui, bien sûr. Alors, si vous le voulez bien, nous allons visiter cette église. On va vous suivre. Alors, d'abord, entrons dans l'église.
Nous y entrons. Non pas par la façade occidentale, comme c'est usage, mais par le côté sud de l'église, parce que la place, le parvis, est beaucoup plus dégagé que devant la façade occidentale. Donc, l'usage est de rentrer
par le bas-côté.
Par la chapelle, le bras droit du transept, qui est justement cette chapelle Saint-Sébastien dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que dans cette chapelle, il y a à la fois un vitrail de Saint-Sébastien et une statue de Saint-Sébastien. Mais elle ne possède pas que ça.
Alors, je vous écoute.
Elle possède aussi un vitrail de Saint-Étienne, premier martyr chrétien. Alors certains disent que c'est Saint-Jean-Baptiste. Non, Saint-Jean-Baptiste était avant le Christ. Donc Saint-Étienne, premier martyr chrétien, qui a été, vous savez, lapidé.
Oui.
Il jouxte vitrail, celui de Saint-Sébastien, lui qui a reçu toutes les flèches que les archers de l'empereur lui avaient envoyées. Donc, les pierres et les flèches. Mais pourquoi Saint-Étienne est ici? Sans doute parce que le grand restaurateur de cette église a été Louis de Montmarin au 19e siècle, dont le père s'appelait Étienne. Alors, il a dû vouloir honorer son père en mettant son saint patron.
Ouais.
En face, il y a Saint-Martin, classique, et je ne vous poserai pas la question pourquoi il a donné que la moitié de son manteau.
Non, parce que vous
Mais
allez
on m'a bien dit
dire.
Qu'il fallait que je fasse attention de bien
Oui, alors dites-le
Alors, il donne, en fait, il donne la totalité de ce qu'il a.
Mais oui.
Parce que l'autre moitié du manteau appartient à l'État.
Ben oui.
Voilà. Mais tout le monde ne le sait pas, ça.
Ah.
Et déjà, c'est admirable de donner que la moitié.
Ben oui.
Mais il donne la totalité. Ça peut donner un bon exemple pour d'autres. Et à côté, il y a le vitrail de Saint-François de Sales, qui est assez original, parce que Saint-François de Sales, on le voit surtout en tableau. Là, il est en chevalier, agenouillé devant l'autel de la Vierge. Vous savez qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Introduction à la vie dévote », dont tout un chapitre est consacré au rosaire. Et le chapitre 4 est consacré à la résistance au mal et la lutte contre le démon. Et dans le petit coin du vitrail, donc on voit Saint-François de Sales à genoux devant l'autel de la Vierge, et il y a, dans le coin, il y a un petit diable qui s'envole, qui s'échappe, qui illustre le fait que, compte tenu de sa prière, eh bien, le démon est vaincu. Alors, voilà ce qu'il y a dans ce bras droit du transept par lequel nous sommes entrés. À ce moment-là, on arrive, si on continue,
oui.
si je vous suis,
visite,
ou si vous
me
suivez,
qui,
on continue.
C'est nous qui suivons, oui.
On arrive au cœur de l'Église.
Dans le cœur.
Donc, c'est là où on voit le plan d'ensemble de l'Église, oui. avec une nef, un autre bras du transept en face, qui est la chapelle de la Vierge, et puis l'abside, oui. le sanctuaire proprement dit.
Et alors ?
Dans la nef, il y a ce vitrail que je vous ai évoqué, purgatoire,
oui.
face à une autre fenêtre qui représente Sainte Geneviève et Sainte Barbe. Sainte Barbe. Et vous savez que Sainte Barbe est la patronne des pompiers.
Oui.
Et vous savez que Sainte Geneviève est la patronne des gendarmes.
Oui.
Et ces deux vitraux ont été mis en place en 1872, après la guerre de 71, de 1871, où Sargé a été plus ou moins protégé, parce que les Prussiens sont passés dans notre région.
Et ça a été brutal à Sargé ?
Non, ils ont été plus ou moins protégés. Et j'imagine qu'en remerciement de cette protection,
voilà.
eh bien, ils ont fait appel à la patronne des pompiers et à la patronne des gendarmes, qui les ont protégés, et du feu, et des brigandages.
Ah oui, c'est une bonne chose.
Voilà.
Sainte chose.
Donc, ils manifestent un hommage à la libération qu'ils ont reçue de la part du ciel. Voilà. Pour la nef, elle a été complètement restaurée en 1991. Donc, ils ont supprimé la chair, le banc d'œuvre. Il n'y a plus grand-chose d'autre dans la nef. Par contre, le cœur, proprement dit, la croisée du transept, un prêtre, en 1950, a fait un grand remaniement et il a installé un autel avancé.
Oui.
Cet autel est en bois de chêne, des forêts qui appartiennent à la famille de Montmarin, justement. L'autel lui-même pèse 2,5 tonnes en bois massif, très 1950. Très bien, quand même. Très 1950, assis sur les reliques de Saint Fortunat.
Eh bien, si vous le voulez, avant que nous allions plus loin avec Saint Fortunat, nous allons faire une pause musicale.
Thank you.
Je suis toujours avec Bernard Malcor et nous visitons cette église Saint-Cyr de Sargé-sur-Braye. Alors, vous avez déjà évoqué l'entrée par le bas-côté et maintenant nous sommes dans le cœur de cette église de Saint-Cyr de Sargé-sur-Braye. Pouvez-vous nous faire visiter cette église ?
Je poursuis la visite et le cœur est marqué par tout l'aménagement qui a été fait par un prêtre en 1950 avec un autel, une table de communion, un ambon, la chaise du prêtre, enfin, tout ça en chêne massif, et est inséré dans cet autel les reliques de Saint Fortunat. Pourquoi Saint Fortunat ? Parce que Saint Fortunat, ces reliques ont été découvertes à Rome dans les catacombes Syrica, dans les catacombes Syrica de Rome. Donc Syrica et Syre, on a trouvé que c'était un lien. Et c'est Monseigneur Affre qui les a donnés à Sargé, à la paroisse de Sargé. Rappelez-vous que Monseigneur Affre est mort sur les barricades en 1848. Était l'archevêque de Paris qui a cru que, sous prétexte qu'il montait sur les barricades, les insurgés allaient baisser les fusils. Eh bien non, il y en a un qui était un peu plus fou que les autres et qui a tiré, et Monseigneur Affre s'est effondré, et la guerre civile s'est pas arrêtée pour autant. Donc c'est Monseigneur Affre qui avait donné ses reliques à Sargé, parce que il y avait une relation avec Sire, patron de l'église.
Alors, donc dans toutes les églises Saint-Cyr, on trouve ce saint, cette histoire.
Alors, on ne trouve pas ces reliques de Saint Fortunat dans toutes ces églises, mais on trouve dans toutes ces églises, on trouve Sainte Julitte et Saint-Cyr.
Voilà.
C'est Saint-Cyr qu'on met en avant, oubliant souvent Julitte. Or, Julitte, c'est elle qui est la mère de Cyr et qui est sainte aussi, et c'est elle qui a été sous l'empereur Dioclétien, qui a été un grand fauve pour tous les croyants de l'époque. Vous savez qu'on était après Constantin. Hein. Constantin avait déclaré que la religion catholique n'était pas religion d'État, mais était admise. Et Dioclétien arrive après et martyrise, donne des ordres de persécution. Julitte habitait en Turquie, ce qu'est la Turquie aujourd'hui. Le gouverneur de Turquie veut être plus royaliste que le roi et veut la faire apostasier. Et il l'emmène devant le tribunal. Julitte avait un fils qui avait 3 ans, Cyr. Et le petit Cyr dit « Mais moi aussi je suis chrétien, moi aussi je suis chrétien » et il veut partir avec sa mère. Il part avec sa mère devant le tribunal et le gouverneur trouve un stratagème en se disant « Si je fais souffrir le fils, peut-être que la mère va apostasier. » Et il prend le fils, le petit garçon, par les pieds et fracasse sa tête sur les marches du tribunal. Et la mère dit « Quel bonheur qu'il soit mort avant d'avoir apostasié. Je préfère avoir un martyr qu'un renégat. »
Et elle fut décapitée.
Mais les légendes montrent qu'elle fut pas simplement décapitée, mais elle fut aussi ébouillantée. Et c'est important pour le tableau du rosaire qui se trouve, qui est un élément essentiel de cette église, qui se trouve dans le cœur. Les tableaux du rosaire, il y en a dans presque toutes les églises, et celui-là, il est tout à fait particulier. Il était peint par un dénommé Raphaël au 19e siècle. C'est une œuvre originale, mais du 19e. Et il représente la Vierge avec Saint Dominique. Vous savez que c'est Saint Dominique qui, au XIIIe siècle, a institué la dévotion du rosaire, qui est, on récite le chapelet. Et de l'autre côté, il y a Sainte Catherine de Sienne, qui était une dominicaine aussi du tiers ordre et qui a aussi favorisé cette dévotion du rosaire. Mais ça, vous le trouvez sur tous les tableaux du rosaire.
Oui.
Par contre, ce qui est plus original, c'est qu'il y a à droite un roi qui a tout l'air de Louis XIII. Et c'est Louis XIII. Et à gauche, un pape qu'on peut estimer être Urbain VIII, qui était le contemporain de Louis XIII. Vous savez que Louis XIII avait aussi fait un vœu pour la Vierge de consacrer toutes
les églises. Et comment se fait-il que Louis XIII se trouve dans cette église ?
Sur ce tableau,
oui.
Louis XIII avait en 1638 fait un vœu que s'il gagnait la bataille d'Arras, il consacrerait les églises à la Vierge. D'ailleurs, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que dans la cathédrale de Poitiers, j'ai trouvé, et sur un immense retable, exactement la même chose. Louis XIII et un pape. Donc je me suis dit, ce n'était pas une peinture de circonstance.
Oui.
C'est une peinture qui veut mémoriser cette donation de Louis XIII, à la fois le rosaire et la donation. Mais alors, ce qu'il y a de très spécifique à ce tableau, c'est qu'il y a au milieu un chaudron où il y a des flammes dessous. Mmh. Et dans le chaudron, vous avez une femme et un enfant. Je vous ai dit tout à l'heure...
C'est pas très amusant, ça, quand même. C'est horrible.
Alors, pas amusant, mais intéressant. Et intéressant parce que singulier. Il n'y a que sur ce tableau qu'il se trouve. Parce que c'est Sainte Julitte et Saint Cyr qui sont dans le chaudron. Mais le peintre, au XIXe siècle, n'était peut-être pas aussi cultivé que tous nos auditeurs. Mmh. Et... s'imaginait pas que Cyr était mort la tête fracassée et croyait que, selon la légende, il avait suivi sa mère qui, elle, selon la légende, avait été ébouillantée dans un chaudron. Donc, ce tableau a été fait, peint spécifiquement pour cette église parce que c'était l'église Saint-Cyr et Sainte-Julitte. Il en fait tout l'intérêt.
Mais oui, très bien. Alors là, nous arrivons, si vous voulez, vraiment au centre de l'église.
Alors là, je l'ai dépassé, puisque je suis allé faire un petit clin d'œil sur un tableau qui est dans le cœur.
Oui.
Et donc je passe au-delà de ce centre pour poursuivre ma visite dans le cœur, parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Je vous ai peut-être pas dit qu'il y avait une troisième église qui était... sans doute la première église qui avait été fondée, et peut-être du temps du roi Dagobert, parce que l'on sait que ce roi, qui était propriétaire du fisc royal, vous savez, c'était des grands domaines que la royauté possédait, avait donné cette région à l'abbaye Saint-Denis de Paris.
Oui.
Voilà. Et à cette époque-là, il y avait une chapelle, l'église, sans doute, qui s'appelait Saint-Aignan, et qui a été détruite ultérieurement pour être remplacée par celle que nous visitons.
Saint-Cyr.
Mais l'église conserve toujours mémoire du passé. Et le rétable possède une statue de Saint-Aignan, évêque d'Orléans, et un vitrail de Saint-Aignan. On honore deux fois Saint-Aignan pour rappeler qu'il y avait des racines chrétiennes sur le coteau constituées par cette petite chapelle.
C'est intéressant comme histoire, effectivement.
De l'autre côté du retable, il y a représenté une dame qui tient un enfant avec elle. Et pendant très longtemps... les paroissiens ont cru que c'était la Vierge et Jésus. Et en fait, c'est Sainte-Julitte et son enfant Saint-Cyr. Et ils sont à gauche, quand vous regardez le rétable, c'est-à-dire à droite du rétable, place d'honneur. C'est toujours là où on trouve les saints patrons des églises. Saint-Aignan est à droite, qui est à gauche, côté épître.
Oui.
Sainte-Julitte et Saint-Cyr sont côté évangile. Et ce rétable a une particularité, c'est de ne pas avoir de tableau au milieu, mais ça c'est pas important, c'est pas intéressant, mais de posséder la représentation de Dieu le Père sur le fronton au sommet du rétable, ce qui est très très rare de voir Dieu le Père qui tient le globe terrestre et qui bénit de sa main gauche et coiffé de ce qui ressemble à une tiare, mais qui peut être aussi le bonnet des juifs de l'époque. Mais c'est Dieu le Père. Et c'est très rare C'est une chose qu'on partage quelquefois avec les musulmans qui représentent jamais Dieu.
Oui.
Mais là, c'est pas vrai. Oui. Là, c'est pas vrai. Voilà. Donc, alors, toujours dans ce cœur, il y a un autre vitrail.
Oui.
Qui est Saint-Louis. Alors ça, c'est un vitrail politique pour moi.
Ah bon?
D'abord, ce qui n'est pas politique, c'est que Ludovic...
Il est sous son chêne, alors.
Parfaitement. Il n'est pas politique que politique, parce que c'est Louis de Montmartre qui a fait toutes ces restaurations vers 1860.
Parce qu'il faut dire que la famille Montmartre est très implantée
dans... Eh bien, il y a trois châteaux sur Sargé,
oui,
et les trois châteaux appartiennent aujourd'hui aux descendants, aux Montmartre ou à leurs cousins. Donc, Louis de Montmartre a fait beaucoup de travaux de restauration dans cette église, et il a notamment mis, je vous ai dit tout à l'heure, Saint-Étienne, son père, et son patron à lui, Saint-Louis. Et son patron à lui, Saint-Louis, qui rend la justice sous son chêne, comme vous le disiez très justement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est là le sens politique. On est à un moment où la République n'est pas encore complètement enracinée, où il y a encore beaucoup de gens espèrent le retour de la royauté. Et pour montrer que, sous la royauté, sous Saint-Louis, la justice était donnée directement aux requérants qui étaient de pauvres airs, qui sont à genoux devant Saint-Louis, sans intermédiaire qui venait obstruer le bon déroulement des choses. Donc, c'est là où c'est un message politique, revenez à la royauté. Et dans beaucoup des églises que je fais visiter, je vois toujours un signe. Chez moi, c'est la tête de Napoléon. Enfin, ailleurs, c'est autre chose. Voilà.
Alors, quelquefois aussi, cette église, on peut l'appeler l'église de la libération. Pourquoi ?
Ça, c'est une dénomination qui m'est propre. J'aime assez trouver un caractère singulier à chacune des églises que je fais visiter.
Ah oui.
En fonction...
Parce que vous faites visiter combien d'églises ?
10.
Ah oui.
En fonction de ce qui émerge de plus frappant. Et dans cette église, ce qui m'a le plus frappé, c'était cet aspect de la libération. Je vous ai évoqué tout à l'heure le vitrail de Sainte-Geneviève et de Sainte-Barbe.
Oui.
Qui traduisait la libération de la France de l'invasion prussienne.
Oui.
Je ne vous ai pas parlé de la statue de Jeanne d'Arc, qui traduisait la libération antécédente de la France des Anglais.
Oui.
Je vous ai parlé du vitrail du purgatoire, où on se libère de nos péchés pour atteindre au ciel. Et je termine par la libération totale de vers notre salut éternel par la présence de Dieu le Père au sommet du rétable.
Ah oui.
Ces quatre éléments m'ont fait dire que je pouvais l'intituler l'église de la libération, qu'on trouve ailleurs nulle part.
Eh bien, un grand merci Bernard Malcor. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci Bernard Malcor.
Merci Christiane Blain.